Culture Club, l'invité.
Les minutes célibataires, c'est donc l'ouvrage de Valérie Nimal qui est avec nous. Minute, déjà, il faut rappeler ce que ça veut dire à l'origine, étymologiquement, Valérie. C'est un espace-temps, ça on l'avait compris, mais bien particulier.
Mais en fait, minuta, en latin ancien, médiéval, ça veut dire écriture menue. Et minutus, c'est menu, petit. Et j'aimais bien l'idée que finalement, ce sont des histoires qui parlent de petites choses, de détails, mais qui ont quand même leur importance.
À l'origine, des chroniques donc, hein, que vous avez écrites pour la radio.
Oui, pour Pure FM.
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, et Corinne en a parlé aussi, ça parle beaucoup du désir, on peut y voir de la légèreté, on peut ici voir des choses beaucoup plus inquiétantes parce que vous parlez du monde dans lequel on vit aujourd'hui, les hommes et les femmes face au désir. Parfois, c'est un désir qui est dangereux, même si je trouve que ce qui sous-tend toute cette écriture, c'est quand même le plaisir de se laisser aller à ce désir, mais c'est parfois un peu dangereux.
Oui, d'abord, j'écris parce que mon mot préféré, c'est la volupté, donc j'ai vraiment envie d'éveiller les sens par l'écriture. Et un des sens que je mets en avant, c'est le regard. Il y a beaucoup d'histoires de gens qui se regardent, qui épient, et le désir passe par le regard. C'est Paul Nouget qui le disait, un de mes écrivains belges préférés. Et alors, dans toutes ces histoires, il y a des choses parfois terribles qui se passent à cause du regard, ou via le regard. Le voyeur peut aussi manipuler, notamment dans une histoire qui se passe sur Internet.
Une gamine et un vieux monsieur et un monsieur de 65 ans.
C'est pas, ça. Pas et la gamine ne se rend pas compte des limites qu'offre Internet aujourd'hui.
Et c'est vrai que dans ces histoires traitées de manière très courte, les minutes, c'est ça aussi, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard de l'auteur. On est en plein dans l'action. C'est voulu, ça aussi, c'est propre à ce traitement si serré.
Oui, absolument. C'est un cadrage, c'est comme un polaroïd. Il n'y a pas vraiment de jugement, mais il y a quand même un regard. De nouveau, je pense que c'est important de poser un angle de vue.
Alors, c'est tous les fantasmes qui sont ici en question. Hein. C'est le fantasme de l'aventure avec un inconnu, de l'aventure sans lendemain. C'est répondre oui à l'aventure. Et dans ces temps de crise et donc de peur, ça fait du bien de se dire que on peut y aller, même s'il y a les dangers. Effectivement, parfois, on peut y aller et ça va bien se passer.
Oui. Il y a beaucoup d'héroïnes ou de jeunes hommes ou d'hommes même plus âgés dans mes histoires qui prennent un risque et qui se disent au fond, en ouvrant la porte d'un supermarché, il peut se passer quelque chose. Je peux rencontrer quelqu'un. Il y a des célibataires qui sont par exemple suédoises qui décident de sortir le soir. Elles s'enivrent comme beaucoup de femmes seules de 30-35 ans. Mais alors elles vont dans un club un peu glauque justement qui s'appelle Fantasma. Et là les choses dérapent un peu. Mais c'est vrai que mes personnages prennent des risques et souvent par hasard.
Mais ça, c'est à contre-courant quand même d'une société en règle générale qui a tendance à se surprotéger, se protéger de plus en plus aujourd'hui, et notamment en matière de rencontres sexuelles aussi. Il n'y a pas que la crainte bien réelle de transmission de sida, par exemple. Les dérives du net, on en parle régulièrement. C'est une volonté chez vous de vous positionner dans la valorisation, comme le disait Laurent, du désir et de la volupté, quelles que soient ses conséquences, en fait. C'est un contre-courant de ce que nous vivons aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Et souvent, la question de la crise revient beaucoup quand on me parle de ce livre, on me dit mais c'est un vous écrivez des choses tellement finalement audacieuses pour cette période où les gens ont envie de se protéger, de faire attention, on met des limites, etc. Mais n'oubliez pas que c'est de la littérature. Donc ici, je mets en fait des fantasmes sur papier. Je ne veux pas dire que ce sont les miens, ce sont aussi ceux d'auditeurs, de lecteurs, de gens que je croise. Mais peut-être que tout cela peut rester au niveau du fantasme.
Et plus les gens ont envie de se protéger, sans doute plus ils ont envie de lire des choses comme ça,
plus la
machine à fantasme fonctionne, j'imagine aussi. Hein. J'avais une question, je peux
Non.
J'espère pour ça. Okay, vous êtes gentil. Je me demandais si c'était une commande et comment vous l'avez commandée, puisque vous avez écrit pour la radio. Et si, Valérie, vous avez eu finalement, grâce à cette écriture radio, l'occasion d'aller directement à l'essentiel, peut-être d'être plus percutant que si vous aviez écrit un livre et de l'avoir d'abord fait pour un recueil de nouvelles, quoi.
Absolument. J'ai eu la chance d'avoir une commande. Donc, en présentant mon précédent bouquin à Pure FM, au fil du temps, on m'a dit « Mais est-ce que vous voudriez écrire des feuilletons ou des petites nouvelles pour la radio ?» Et finalement, j'ai accepté parce que plus on a des contraintes dans l'écriture, plus finalement l'imagination se libère. Et le fait d'écrire pour la radio, il faut être très court, aller à l'essentiel. Et évidemment, j'ai retravaillé ces histoires pour qu'elles puissent être lues dans un bouquin. Mais j'aimais bien la notion de la contrainte.
Et vous avez aussi, je trouve, le talent de croquer les individus très rapidement et en partant de l'extérieur, c'est-à-dire une jeune fille avec la mèche qui lui barre les cheveux, une jupe rouge, enfin bon, c'est autre chose, mais c'est un peu ça, hein. C'est d'abord l'extérieur.
Se croquer carrément littéralement aussi, d'après ce que j'ai entendu, hein, on se mange.
L'histoire de cannibale. En fait, toutes mes histoires partent de détails. C'est souvent, de nouveau, c'est l'œil, mon œil qui est accroché par un détail. Et il suffit d'une robe rouge, en effet, pour que... le titre de l'histoire soit trouvé déjà.
Les Minutes Célibataires, c'est chez Luce Wilquin. Valérie Nimal est avec nous, David Lallement aussi. Et on attend Nyx qui est coincé dans des embouteillages.
Ouais, qui va nous rejoindre dans un instant. Et on va rester avec vous, Valérie Nimal, et parler du développement sur le net aussi de ce livre qui est décidément la rencontre de bien des médias aujourd'hui. C'est juste après les Red Hot Chili.
Midi 13h, Culture Club.
Nyx nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, Nyx, de votre vrai nom, Marnix Verduin, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Voilà. Et déjà, ce pseudonyme de Nyx, c'est tout un programme, j'ai l'impression. Comment il est venu ? Comment il est arrivé ?
Ah non, il était imprévu comme le reste de ma carrière, d'ailleurs. C'est juste quand j'avais fait mon premier dessin qui allait être publié et je venais à droite, en bas au dessin, il me fallait un pseudonyme et j'en avais pas encore. Et c'était à l'époque, dans les années 80, quand c'était encore à la mode d'avoir un pseudonyme quand tu étais dessinateur, parce que maintenant tout le monde prend son vrai nom, ça fait plus chic. Mais donc il y avait mon père qui était assis à côté de moi qui a simplement dit t'as qu'à prendre Nyx parce que ça veut dire rien en flamand.
Mais là où je disais que c'est tout un programme, c'est que ça vous va bien, parce que vous travaillez aussi avec un certain nonsense, avec un certain humour, une autodérision, ouais. et un certain humour poussé jusqu'au trash et jusqu'à l'absurde parfois. C'est là où je trouve que finalement c'est loin d'être incohérent ce pseudo.
Si, quand même, parce que ce sera moi qui dirais que ça ressemble à rien, ce sera moi le premier.
Kinky et Cozy, donc ce sont vos héroïnes, des jumelles qui sont, je le disais, pas banales parce que elles ont 8 ans à peu près, hein. Elles sont très intelligentes mais en même temps très irrévérencieuses, très audacieuses ou provocantes selon les fois, et surtout elles remettent en cause les adultes. On parlait beaucoup des adultes tout à l'heure avec David Lallement. Ici, les adultes ne sont pas toujours les plus reluisants non plus. Ils sont souvent incompétents et elles mettent le doigt dessus. C'est leur force.
Mais c'est comme ça avec les adultes.
Ça va faire plaisir à David Lallement.
Oui, mais tout à fait. Moi, c'est ça qu'on n'arrête pas de dire, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y aurait que des jeunes idiots et des adultes formidables ? Il est temps d'ouvrir les yeux. Et je trouve que dans le travail de Nyx, ça, c'est magnifique. C'est qu'on voit dans ce trait de bande dessinée qui est magnifique, qui va à l'essentiel, qui montre comment ça se passe vraiment, l'essence même de l'intelligence qu'on peut trouver chez un jeune si on s'y arrête.
Oui, mais Nyx, vos deux gamines, elles portent un regard sur les adultes, mais un regard objectif, efficace. Et ce n'est pas le jugement qu'elles portent sur les adultes qui induit le jugement de la bande dessinée.
Non, parce que quand les enfants jeunes ont encore l'esprit tout à fait libre, qui n'est pas encore pollué avec des mauvaises pensées, des agendas cachés.
Oui. Elles sont nées comment, ces deux gamines ?
J'étais en train de travailler pour De Morgan et je faisais des dessins de presse. Et ça commençait à m'embêter un peu que les dessins de presse, ça reste qu'une journée. Si on a la chance, souvent ce n'est que le matin. Et après, on emballe les patates dedans. Et je voulais quelque chose qui restait plus longtemps. Et je me suis dit, je vais inventer des personnages de BD.
Qui seront récurrents.
Oui.
Mais vous êtes quand même moins sévère que David Lallement sur les adultes. Vous dites, au fond, les adultes, ce sont des enfants déguisés. Ce qui expliquerait parfois leur incompétence. Ça, c'est plutôt gentil pour les adultes, non ?
Oui.
Non ?
Non, moi, je ne suis pas d'accord parce que, justement, les adultes, c'est des enfants incompétents. Voilà, les enfants, ils sont compétents. Et puis, en devenant adulte, on devient incompétent souvent parce qu'on est
encombré. En se croyant compétent.
Voilà, et parce que justement, on devient le référent. Alors, on a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Donc, finalement, on n'est pas très éloignés, Nyx et moi. Et faites attention parce que je ne fais pas de généralité, moi, justement. Tous les adultes ne sont pas incompétents et tous les jeunes ne sont pas brillants. Je ne fais pas du jeunisme.
Mm-hmm. Nyx.
D'accord, la plupart, quand même.
Plus radical, vous.
Sans vouloir généraliser.
J'aime de plus en plus Nyx, hein, ça je dois dire.
C'est vrai qu'il y a, un de ces strips, par exemple, hein, où on voit vos deux gamines, Kinky et Cozy, qui roulent à bicyclette dans les flaques. Hein, voilà, elles traversent comme ça la boue, et puis voyant un type en VTT...
Vous faites bien la bicyclette.
Voyant un type en VTT qui fait la même chose, et en une des deux qui s'exprime, eh ben ça alors, être adulte, c'est faire la même chose qu'un gosse, simplement avec du matos plus cher. Et voilà, en trois cases, la situation lapidaire est brossée. On parlait tout à l'heure avec Valérie Nimal de ce format du court, de ces minutes célibataires. Vous, c'est venu aussi de la nécessité de faire court pour la presse, mais vous vous y êtes tellement pris au jeu qu'aujourd'hui vous publiez au-delà de la presse écrite ce format court. Qu'est-ce qu'il vous apporte tellement comme outil ? En quoi est-ce qu'il vous plaît ?
Il me plaît dans sa simplicité et sa force, en fait. Parce que souvent, c'est comme ça, quand on a des contraintes, qu'on est plus libre. C'est une contradiction in terminis. J'ai encore appris du latin. et voilà, donc c'est la presse, comme maintenant, on fait des dessins animés pour la fierté. C'est aussi une minute ou 30 secondes, à peu près. Et ça, quelque part, ça te permet de surprendre plus le spectateur.
Ça vous oblige à oser la gifle aussi.
Oui, absolument, oui. Enfin, la force dans la BD, en fait, c'est l'espace blanc entre deux cases. C'est là où il n'y a rien qu'il y a la force, en fait.
C'est comme l'ellipse dans la nouvelle. On ne doit pas tout raconter. La parenthèse permet au lecteur d'imaginer ce qui va suivre.
Ouais. Oui, donc là, tu joues avec l'imagination du lecteur et il ne sait même pas.
Mais vous, en tant que créateur, vous devez savoir, j'imagine, ce qu'il y a entre les lignes ou entre les cases. Vous devez le savoir. Ce n'est pas rien, justement, ce qu'il y a à l'intérieur.
Oui, on prétend de le savoir. Oui, c'est ça. Un adulte.
Vous dites aussi, Nyx, que vous écrivez pour l'adolescent que vous étiez, l'adolescent de 14 ans. Alors, ici en Belgique, je pense que tout le monde lit. Enfin, il n'y a pas réellement de tranche d'âge pour vos aventures, de Kinky et Cozy, par exemple. Il y a d'autres personnages. En France, par exemple, c'est plus typé. On vous classe plus dans la BD pour adultes.
Dans la BD dangereuse.
Oui, c'est ça. Dangereuse.
Oui, j'ai un autocollant sur les couvertures qui dit que c'est pour rire. Faites gaffe, c'est pour rire. C'est dangereux. Oui, je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'est mon éditeur qui colle.
Mais là, vous étiez à Angoulême il y a quelques semaines ou quelques jours où vous n'êtes pas renseigné, vous n'avez pas essayé d'enquêter pourquoi on vous classait comme ça dans les dangereux potentiels.
Non, le public est souvent très large en fait. Souvent, il y a des gosses de 11 ans qui viennent aussi bien que des filles de 45 ans, par exemple. Donc,
mais c'est vrai qu'il y a un côté, vous jouez très fort, hein, sur ce côté un peu moche, sale et méchant. Et en même temps, il y a cette candeur de ces deux gamines et cette évidence de regard des enfants qui n'est pas, lui, ni trash, ni sale et méchant. Et en même temps, il y a, dans les personnages récurrents autour de vos deux jumelles, un manchot, un pompier au bout du rouleau, un prof dépassé, une maman accro au vibromasseur aussi. C'est vrai que vous mélangez un peu les
deux fois. Rappeler celle-là.
Ah non, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est vrai que vous mélangez les genres et qu'on peut se demander qui lit quoi là-dedans et à qui vous vous adressez, en fait.
Mais en fait, je m'adresse qu'à moi-même. Quand je les dessine, c'est déjà compliqué, assez compliqué comme ça. Mais après, oui, en effet, je m'aperçois qu'il y a plusieurs lectures. Et probablement à cause de ça qu'il y a des gosses de 11 ans qui sont là, qui ne comprennent pas encore tout.
Juste rappeler que Kinky, hein, ça veut dire bizarre, pervers. Oui. Et puis Cozy, c'est douillet et tranquille. Alors, c'est un recueil, je dirais, un peu foutraque, hein, que ce livre-là. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'aventures. Il y a Kinky et Cozy, d'autres personnages. Et puis il y a vous. Vous vous mettez en scène, vous vous déguisez en vos propres personnages. Il y a quand même la notion de l'amusement. Comme chez Valérie Nimal, on a vraiment le sentiment que vous voulez d'abord vous amuser.
Oui. C'est la première condition. Oui, ce serait grave quand même de faire de la BD. Si tu dis tous les jours, oh, qu'est-ce que
on
je fais.
On peut vouloir faire de l'argent, par exemple.
Choix. Pourquoi je fais ça?
Mais oui, c'est vrai, on peut vouloir faire de l'argent avec la BD aussi.
J'ai été ingénieur civil, je sais ce que ça veut dire.
Vous avez été rattrapé par la bande dessinée, en fait.
Oui. J'étais une faute de la nature. J'étais d'abord ingénieur civil. Mais j'ai donné ma place au marché de boulot.
Non, mais on peut rappeler peut-être que vous travaillez dans des fanzines de bande dessinée, si je ne m'abuse, quand vous étiez à la KUL, c'était ça?
Oui.
Et puis, une vocation, vous avez commencé une carrière très sérieuse, et là, vous avez été rappelé par quelqu'un qui se souvenait de ce que vous aviez produit en tant qu'étudiant.
Oui, qui travaillait pour le Standard. Oui, donc le standard a changé ma vie. Parce que j'y croyais plus et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même faire comme tout le monde, aller travailler.
Vous ne croyez plus à la bande dessinée, c'est ça?
Non, parce que j'avais toujours travaillé pour des fanzines d'étudiants et ça, bon, on ne gagne pas son argent avec ça. D'ailleurs, si on dessine des bandes dessinées pour la presse, on n'entend jamais rien, sauf des mauvaises lettres. Donc des lettres de complainte, ça c'est toujours bon signe. Si on reçoit des lettres de complainte, ça veut dire qu'il y en a qui ont lu la BD. Mais sinon, on n'entend rien. Et donc au bout de plusieurs années, j'avais 24 ans, je me suis dit, bon, ça va, il n'y a personne qui est intéressé, je m'arrête, je vais faire...
Vous n'aviez jamais essayé de contacter un éditeur?
Non, je n'osais pas. Non, je n'osais pas. Donc, mais quand le Standard m'a téléphoné, ça m'a quand même ouvert les yeux. Oui. À ce moment-là, j'ai...
Ça vous avait fait peur, non?
Oui. J'y croyais pas. Je me suis dit, oh, mais je me suis trompé. C'était probablement le magasin, la librairie de Standard, juste à côté. Et, tu vois, et donc, deux jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe. Il y avait le logo du journal. Je me suis dit, hey, c'est vrai.
Et puis voilà, maintenant, il y a les albums, il y a ce recueil ici qui sort. Et il y a eu Angoulême, la reconnaissance, la consécration à Angoulême. Ouais. On parlait ici dans ce studio. Quoi, vous avez l'air de relativiser
très blasé.
Oui, c'est Angoulême qui m'a donné le prix de l'humour. T'imagines ça... C'est un peu bizarre quand même. Donc ils m'ont déclaré officiellement humoriste. C'est pas très malin. C'est comme si tu donnes à un agent secret un t-shirt. Agent secret, allez, va te balader dans les rues maintenant.
Vous devez faire rire aujourd'hui, il y a une obligation en fait.
Oui,
c'est terrible.
Oui. Moi j'ai toujours voulu cacher.
Mais est-ce que vous cherchez vraiment à faire rire ou bien parfois vous cherchez à faire grincer des dents quand même aussi? Moi j'ai l'impression que, et c'est sans doute le propre d'un recueil comme ça, on va d'une humeur à l'autre. On rit certes, on rit jaune et parfois, je parlais de gifle tout à l'heure, je vous sens de très mauvaise humeur derrière certaines de ces strips.
Ouais, mais le spectre de l'humour est très lâche.
C'est la rupture de ton, comme chez Valérie Nimal d'ailleurs dans ses nouvelles, où vous, Valérie, vous donnez carrément en parallèle, je dirais, les différents éclairages par rapport à une même aventure. Tantôt c'est l'homme, par exemple, qui parle, tantôt c'est la femme. C'est l'art délicat de la rupture de ton.
Oui, et souvent, l'homme et la femme n'ont pas du tout le même point
évidemment,
de vue.
Évidemment,
c'est ça qui est intéressant, c'est d'explorer la vision de l'un et l'autre. Et alors, comme je lisais en plus ces nouvelles en radio, j'avais un lecteur masculin qui faisait la voix masculine, le lui, et moi je lisais la voix féminine. Et parfois, le lecteur masculin, au moment de recevoir son texte, voulait corriger ce que j'avais écrit, moi, en tant qu'écrivaine féminine, en disant « Mais c'est pas comme ça que j'aurais dit ces mots érotiques, j'aurais dit beaucoup plus trash. » Et c'était intéressant d'avoir son retour, quoi.
Valérie Nimal, Nyx et David Allemand encore pour quelques minutes dans Culture Club après...
Bruce Springsteen.
Midi 13h, Culture Club.
I'm on fire, Bruce Springsteen. Et c'est vrai, comme vous le disiez judicieusement, Laurent, ça c'est ce qu'on appelle une rupture de ton. On va revenir à cet autre ton qu'on évoquait ici, Kinky et Cozy, Nyx et puis Valérie Nimal. Tout en sensualité d'un côté, tout en allez, trash un petit peu peut-être et provocation de l'autre. Ce sont des ficelles qu'il faut manipuler quand même avec doigté pour ne pas finir par faire l'inverse de ce qu'on veut faire. Est-ce que vous avez vous-même vos propres censures à un moment ou à un autre? Vous disiez tout à l'heure, Nyx, tant que ça me fait rire, c'est bon. C'est ça le filtre? C'est vous et votre regard, vous et votre rire?
Oui, mais c'est un peu simple comme explication.
C'est pour évidemment ça que je vous demande d'en donner un peu plus.
Non, c'est un exercice d'équilibre, en fait. Ouais, mais ça devient très sérieux maintenant.
Allez, deux minutes, c'est pas grave.
Ouais, bon,
et vous le gardez comment, cet équilibre?
Moi, j'aime pas trop parler de l'humour, parce que c'est un peu comme avec le sexe. Hein. Il faut le faire, il faut pas trop en parler.
Mais n'oubliez pas que vous avez été consacré humoriste à Angoulême, alors parlez-en de l'humour.
Ouais, c'est foutu maintenant.
Mais on a tous le sens de l'humour, vous pensez qu'on peut rire de tout et avec tout le monde?
Non, j'ai très bien aimé en fait la réaction du ministre des Affaires étrangères d'Angleterre sur Laurent Della, qui voulait rentrer avec son film Fitna. Il a dit, moi je suis... pour la liberté de parole, mais je suis contre quelqu'un qui crie feu dans un théâtre qui est rempli jusqu'au toit.
Mm-hmm.
Donc quelque part, c'est quand même faut le sentir si on peut faire rigoler avec quelque chose, oui ou non.
Et vous le sentez comment ça?
Des fois, je ne le sens pas parce que j'ai déjà eu des complaintes. J'ai eu presque fatwa. Ouais.
Observatrice aussi, hein, Valérie Nimal, c'est le monde qui est abordé. Bah, d'ailleurs, voilà, tous les aspects, on vient d'en signaler un, par exemple la censure ou la liberté d'expression. Vous observez le monde, Valérie Nimal, et notamment les nouveaux moyens de communication. Facebook, par exemple. Facebook qui peut créer de véritables ravages dans les couples. Vous avez constaté ça vous-même ou bien là aussi, c'est l'imagination qui est au pouvoir?
Non, en effet, je pratique.
C'est un peu le sens de ma question.
Je pratique avec beaucoup de plaisir parce que écrire, c'est écrire souvent tout seul dans une petite pièce sans avoir de contact. Alors l'internet, ça permet aussi de rentrer en contact avec d'autres personnes et de se lâcher un peu. Mais Facebook, c'est particulier. J'avais lu quelques témoignages de femmes qui disaient « Mon mari est vraiment obsédé par le fait que je suis sur Facebook et il me censure et je peux rien y faire. » Et donc j'ai écrit cette histoire sur Facebook Jalousie, ça s'appelle. Mmh. C'est l'histoire d'un homme qui contrôle tous les amis, entre guillemets, de sa femme parce qu'il se dit qu'un jour, elle va le tromper via Facebook. Mmh. Et il y a eu un fait divers où un homme... s'est suicidé.
Non, il a tué. Ouais. Il a tué son ex-femme parce qu'elle l'avait sur Facebook renseigné qu'elle n'était plus mariée à lui. Il n'a pas supporté que tous ses amis allaient le savoir, que ça allait devenir du domaine public et donc il est allé l'assassiner, ce qui est vraiment une histoire sordide et affreuse.
Voilà, c'est ça.
Ouais, et cela dit, ces nouvelles technologies, vous vous en servez pas seulement pour vous inspirer pour différentes nouvelles, mais aussi pour développer vos nouvelles. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ces Minutes célibataires faisaient l'objet de minutes radiophoniques, ont été publiées sur votre blog aussi, où elles sont toujours disponible
en, si podcast,
je ne m'abuse,
oui.
En podcast. Et puis quoi, il y a une continuité à tout ça. Il y a l'équivalent d'un book trailer qui vend votre recueil ici, Les Minutes célibataires, qui est disponible, qui circule sur le net aussi. Vous êtes vraiment vous-même multimédia.
Oui, la plateforme multimédia, ça m'intéresse vraiment. Et surtout l'aspect de la création polymorphe. J'aime bien l'idée qu'on écrit quelque chose et que ça peut être entendu, vu, lu et sur différents supports aussi. Et c'est clair que sur Internet, j'ai l'impression de pouvoir toucher d'autres personnes, notamment les jeunes sur Facebook. Ce qui est génial, c'est que j'ai pu faire un casting en 3 jours. J'ai trouvé 15 petits comédiens non professionnels. Ils ont voulu tourner dans le clip vidéo, enfin la bande-annonce de mon livre. Et maintenant, on a des liens avec ces ados. Et je me rends compte qu'ils lisent encore. Pas spécialement sur papier, mais ils lisent des e-books, ils lisent sur Internet.
Voilà, vous croyez aux e-books, vous, par
Moi,
exemple.
J'y crois. Je crois que le livre ne va pas disparaître, le livre papier. Mais je pense que l'e-book, il va se développer et ça va augmenter les potentiels de l'édition.
Ce qui est assez amusant, c'est d'ailleurs qu'il y a toute cette chaîne des moyens, des nouvelles technologies. Et chez vous, Nyx, il y a le B.A.B.A., je dirais, c'est d'ailleurs dans votre livre, il y a les maquettes qu'on peut construire, comme quand on était petit, en carton. Donc c'est possible, il y a le mode d'emploi et on peut construire une kinky, une cosy, etc.
Parlez des deux objets que sont ces livres, parce qu'ils sont magnifiques tous les deux. Hein. La couverture avec la jolie bouche, avec un cœur dessiné dessus de Valérie Nimal. Et puis ce merveilleux recueil brillant avec des yeux extraordinaires de Nyx. Ça, c'est deux objets qu'il faut absolument avoir.
C'est un bon vendeur. Hein. Il a bien fait d'être venu.
Voilà, vous faites bien de nous le rappeler, effectivement.
On verra si vous m'invitez encore.
L'un est au Lombard et l'autre
chez
Luce Wilquin. Il nous reste quelques secondes pour vous inviter au Théâtre National. Allez voir Le Misanthrope dans la mise en scène de Philippe Sireuil. On en avait beaucoup parlé dans ce studio, notamment l'année dernière avec Philippe Josette, notamment dans le rôle du misanthrope. Vous nous envoyez un SMS au 3051 en nous envoyant le mot misanthrope, sans faute d'orthographe, s'il vous plaît. Ah, c'est une blague. Misanthrope, donc c'est de votre nom, prénom et de votre adresse, non? Juste de votre nom et prénom.
Je sais pas, j'ai perdu l'œil de Kinky, je pense. Là.
Il est distrait, bon. C'est pas grave. 3051, misanthrope, suivi de vos noms et prénoms pour la représentation de ce 21 février, 20h15 au Théâtre National. Vous ne m'aidez pas beaucoup, hein?
Astor Piazzolla, vous voyez que je vous aide. Astor Piazzolla, après Flashback, après le grand journal de la mi-journée. Bonne journée néanmoins sur la première.
Bel après-midi à vous. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci
avec
Valérie
plaisir.
Nimal, David Lallemand. Merci Nyx. À bientôt.
Retrouvez Culture Club tous les jours de la semaine entre midi et 13h.
La première.